Vous écoutez
RMC.
Il est 8h sur RMC et RMC Story. Il fait pas beau, Géraldine.
Non, ça va s'arranger, mais pour aujourd'hui, il va falloir se contenter des nuages et des averses. Des averses d'ailleurs qui vont tourner à l'orage cet après-midi, notamment entre les Hauts-de-France, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse. Sur l'Aquitaine, sur l'Occitanie, là, vous allez être à l'écart. Vous aurez un temps sec et plutôt bien ensoleillé d'ailleurs. Les températures évoluent toujours pas, donc on reste sous les normales de saison, 15 à 19 degrés en général pour cet après-midi, 19 à 23 de la Vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée, mais là aussi des températures qui vont bien grimper pour la fin de la semaine.
8h passées de 1 minute. Très bon lundi à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est le signe que les relations s'arrangent entre la France et l'Algérie. Le ministre Gérald Darmanin va passer la journée à Alger pour parler de la coopération judiciaire entre les deux pays, mais aussi du cas du journaliste Christophe Glaize qui est emprisonné là-bas. Vous allez entendre dans ce journal les dernières réactions ce matin à l'affaire Patrick Bruel qui se défend de toute violence sexuelle, lui qui est accusé par une trentaine de femmes. Et on va dresser le bilan de la saison de Ligue 1 de foot au lendemain de la dernière journée. On va se pencher sur le cas de Nice qui va devoir passer par un barrage pour sauver sa peau dans l'élite.
Et donc, pour la troisième fois depuis le début de l'année, un ministre français se rend en Algérie.
Signe, oui, que les relations se sont améliorées ces derniers mois entre les deux pays. Alors cette fois, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est sur place et qui va peut-être même rencontrer le président algérien pour évoquer la situation du journaliste français, notamment Christophe Glaize, condamné là-bas à une peine de 7 ans de prison, hein, Cyprien Pézril.
Oui, Gérald Darmanin pourrait être reçu par le président algérien. Un rendez-vous stratégique s'il en est, puisqu'Abdelmajid Tebboune a le pouvoir de gracier Christophe Glaize, comme il l'a déjà fait pour Boualem Sansal. Une grâce, c'est désormais le seul moyen pour le journaliste français d'être libéré avant la fin de sa peine. Il a renoncé en effet à ce pourvoir en cassation. L'espoir de son retour est réel pour le garde des Sceaux, mais le meilleur moyen de le libérer est de ne pas trop parler, prévient le ministère de la Justice. Au-delà du sort de Christophe Glaize, aujourd'hui, il sera aussi question de coopération judiciaire, notamment pour lutter contre la criminalité organisée, mieux ciblée par exemple des chefs de la DZ Mafia. Bref, relancer la machine entre Paris et Alger, après des mois de brouille, entretenu en particulier par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Fin avril, Emmanuel Macron fustigeait, je cite, les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie.
Alors pendant ce temps, en France, le Sénat se lancera à partir d'aujourd'hui dans l'examen du projet de loi Riposte. Texte qui balaye toutes les questions de sécurité. Il a été pensé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et il est désormais porté par l'actuel ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Alors si on résume, Thomas Becker du service politique à RMC, il prévoit de durcir les sanctions contre tout ce qui est rave party, rodéo urbain, tir de mortier et consommation de drogue.
Oui, avec un doublement de l'amende de 250 à 500 euros avec en complément une suspension du permis de conduire, même si le flagrant délit n'est pas constaté au volant. Face à la délinquance du quotidien, le ministre Laurent Nunez prône une tolérance zéro, amende forfaitaire sur le champ en cas de participation à des rave parties ou des rodéos, peine de prison pour les organisateurs. Face à l'explosion de l'usage du protoxyde d'azote en gaz hilarant, le texte prévoit 200 euros d'amende en cas de flagrant délit et 6 mois d'emprisonnement pour la vente illégale. Au Sénat, une majorité devrait se dégager, mais une sénatrice socialiste s'inquiète, je cite, de l'affaiblissement du droit, un argument qui animera les futurs débats à l'Assemblée où le chemin vers une adoption reste beaucoup plus incertain.
Il y a un nouveau procès de narcotrafiquant qui commence aujourd'hui à Marseille. Il se passe sous très haute sécurité, il est même qualifié de sensible par l'administration pénitentiaire. 20 prévenus jugés pour trafic de stupéfiants, notamment un certain Félix Bingui, chef présumé de ce qu'on appelle le clan Yoda, à savoir les rivaux de la DZ Mafia. Il avait été arrêté il y a 2 ans au Maroc. Nouvelle réaction ce matin dans l'affaire Patrick Bruel, le chanteur accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes, bien qu'il s'en défende, jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit. Voilà ce qu'écrit le chanteur dans un message qui a été posté dans la soirée sur le réseau social Instagram. Alors l'affaire prend une toute autre tournure depuis les accusations vendredi de l'animatrice Flavie Flamand. C'est ce qu'estime ce matin sur RMC Cécile L'Olivier. Écoutez-la, elle est journaliste au magazine Elle.
Qu'il y ait une femme aussi connue, aussi populaire que Flavie Flamand qui accuse
à visage découvert, ça donne une autre dimension à l'affaire, évidemment. Et nous, les témoins que nous avons interrogés, nous ont appelés en disant qu'elles se sentaient quelque part à l'abri, confortées par cette prise de parole. En fait, elles se disent, on va nous croire. Il n'y a pas que de la parole contre parole. Hein. Je pense notamment à notre témoin du Canada qui dénonce une agression sexuelle, qui a fait un signalement à la police de Montréal en 2017, qui en a parlé à sa hiérarchie, qui en avait même parlé à l'attaché de presse de Patrick Bruel, qui a fait un signalement à la médecine du travail. Et donc, sur les 30 témoignages, il n'y a pas que de la parole contre parole.
Tiens, cette question ce matin, l'histoire va-t-elle se répéter? Vous avez certainement vu passer durant le week-end ces scènes de tension partout en France devant des boutiques de la marque Swatch qui mettait en vente des montres d'une collection spéciale en collaboration avec la marque de luxe Audemars Piguet. Énormément de monde à cette occasion, des files d'attente ont tourné carrément aux échauffourées, la police a dû intervenir, certaines boutiques ont dû fermer dans l'urgence samedi. Elles étaient encore fermées hier, on était dimanche. Et alors à Lyon, eh bien, notre correspondant RMC, Vincent Chevalier, nous dit que certains campent toujours devant la boutique Swatch qui doit rouvrir là dans la matinée.
Assis sur sa chaise de camping devant le magasin, Mohamed ne s'en cache pas.
Bon, moi je suis un reseller, donc je viens pour faire de l'argent.
Il a patienté plus de 24 heures ce week-end pour tenter d'avoir une montre, sans succès, mais il ne désespère pas.
Je suis étudiant et franchement, l'argent c'est un peu important dans notre période. 1000 euros en attendant 24 heures dehors, moi je dis pas non. Hein.
Quelques chaises plus loin, Abdel n'est pas là non plus pour l'amour de l'horlogerie. Lui aussi compte bien faire des bénéfices importants sur la revente.
Moi personnellement, la montre, celle que je voulais, elle a 400 et... minimum 400, je voulais prendre aussi. Donc à la revente, 800 euros.
Sur certains sites de e-commerce, des modèles sont même mis en vente à 1700, 2000, voire 3500 euros ou plus, ce qui ne surprend pas du tout Victor.
Audemars Piguet, c'est vraiment une marque de montre inatteignable. Il faut vraiment avoir bien réussi sa vie pour l'avoir. Vraiment, vraiment. Du coup, cette collaboration, elle fait un peu rêver tout le monde. Moi, c'est cette collaboration-là, elle me fait rêver.
Pour prévenir tout risque de débordement, la police a prévu des rondes devant la boutique ce matin. Elle doit ouvrir à 10h, sans certitude que le nouveau modèle sera bien mis en vente.
C'est comme si le temps s'était arrêté hier soir à Nantes, à Nice aussi, avec des envahissements de terrain de la part des supporters en colère dans ces deux villes lors de la dernière journée du championnat de Ligue 1 en football. Le match n'a même pas repris à Nantes, qui s'expose à des sanctions en plus de la relégation en Ligue 2. Et Nice devra passer par un barrage pour sauver sa peau dans l'élite. Ce sera contre Saint-Etienne la semaine prochaine. Et dans ce contexte-là, le président niçois Jean-Pierre Rivère ne fait plus de la finale de Coupe de France une priorité.
Est-ce que les joueurs vont relever la tête? Est-ce qu'on va arriver à remobiliser tout le monde de la meilleure des façons? Le contexte, vous l'avez vu, n'est pas facile, n'est pas bon. On doit se dire, il faut être unis. On verra comment on joue, si c'est à huis clos, si c'est pas à huis clos. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est d'essayer de gagner ces deux matchs. Il n'y a que ça qui est important. C'est jamais accessoire de jouer une finale de Coupe de France, mais la priorité, on le sait, n'est plus là. Ça reste une finale, on va la jouer, bien évidemment. Mais le plus important, c'est de s'en sortir et de rester en Ligue 1. C'est la seule ambition qu'on peut avoir.
C'est Lille qui termine troisième, qualifié directement pour la Ligue des Champions. Lyon devra passer par un barrage quatrième. Marseille cinquième va se consoler avec la Ligue Europa. Et Rennes est en Conférence League. C'est une soirée, tiens, aussi en football, pleine d'émotions. En Espagne, à Madrid, où Antoine Griezmann a officiellement fait ses adieux à l'Atlético. Écoutez, il a été ovationné, Antoine Griezmann, après 10 saisons à l'Atlético et avant de s'envoler pour les États-Unis où il va poursuivre sa carrière. Et puis alors, c'est raté pour Victor Wembanyama, on en a beaucoup parlé, il ne sera pas MVP, il ne sera pas meilleur joueur de la saison de NBA en basket. Le titre revient pour la deuxième année d'affilée au Canadien Gilgeous Alexander d'Oklahoma. Tiens, équipe que les Spurs de Wemby, justement, vont affronter à partir d'aujourd'hui en finale de conférence Ouest.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel. Après
Bonjour
des mois
tous.
De négociations, SFR devrait être racheté par ses concurrents.
Oui, les trois opérateurs, Bouygues Télécom, Orange et Free, avaient déposé en octobre 2025 une proposition commune de rachat de leur concurrent SFR auprès de son propriétaire, Altice Média. La négociation devait s'achever vendredi, mais le dossier est complexe et donc la discussion est prolongée jusqu'au 5 juin. Le plus probable, c'est quand même que cette négociation aboutisse. Il n'y aurait donc plus quatre, mais trois opérateurs télécom en France, comme avant l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile en 2012.
La reconfiguration, elle va forcément avoir des conséquences pour nous.
Oui.
Un impact sur les prix des forfaits, des téléphones.
Exactement. Avant 2012, un forfait illimité coûtait entre 40 et 60 euros. Free arrive avec son offre à 19,99 € par mois. Résultat, les prix moyens des forfaits chutent de 30 à 50% et la France est aujourd'hui un des pays les moins chers d'Europe. Il faut donc s'attendre à l'effet inverse de celui provoqué par l'arrivée de Free, soit une hausse sans doute de 10 à 20% des forfaits. C'est ce qu'on avait constaté en Autriche, en Allemagne et en Irlande quand le marché était passé de 4 à 3 opérateurs comme ça va être le cas en France. Alors attention, c'est pas pour tout de suite, hein, il va encore falloir beaucoup d'autorisations de diverses autorités, ça prendra des mois voire au moins une année. La clientèle professionnelle de SFR sera reprise par Bouygues Télécom. Pour les particuliers en revanche, il faudra vérifier vos contrats. Quand la vente sera faite, vous recevrez un message de SFR qui vous mettra finalement le deal en main. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez changer d'opérateur? Vers qui, surtout, voulez-vous vous tourner? C'est là qu'il faudra comparer les offres et puis aller
vous
vers l'opérateur.
Vous nous donnerez les conseils,
je vous en reparlerai absolument. Ouais. Mais rassurez-vous, déjà, personne ne sera privé d'Internet et de téléphone.
Merci Emmanuel. Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC, ça monte ou ça descend?
Eh bien écoutez, je n'ai qu'une seule bonne nouvelle à vous apporter aujourd'hui. Elle concerne le gazole, dont les prix continuent de baisser. 2,12 € le litre, c'est moins 3 centimes sur une semaine. On est au plus bas depuis le 20 mars sur le gazole. En revanche, le sans-plomb 95, ça continue à monter, 2,04 €. On se demande même si finalement les courbes vont pas se croiser entre le sans-plomb et le gazole. On est là encore plus cher. Et puis le pétrole, hein, on est à 110 $ le baril. On est au-dessus des 100 depuis le 7 mai. Et puis pas très bonne nouvelle pour le gaz, hein, qui était plutôt calme. Ça remonte aussi, 51,50 € le mégawattheure. On est au plus haut depuis le 7 avril.
Merci Emmanuel. 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et puis vous l'avez entendu ce matin, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur qui défend ce projet de loi riposte sur la sécurité du quotidien. Mathieu, nombreux messages sur cette
question. Avec notamment cette idée, si vous consommez des stupéfiants, un juge pourra suspendre ou vous retirer le permis de conduire pendant 3 ans, même si ce n'est pas au volant que vous avez été contrôlé. Ça vous a fait réagir. Nicolas nous dit, ça me fait bien rire, on fait des projets de loi pour durcir les sanctions, mais il n'y a aucune force de l'ordre dans les rues pour sanctionner ensuite. Autant ne pas promulguer cette loi si elle était votée, nous dit Nicolas. Nono nous écrit, c'est quoi ce ministre qui commence déjà à faire le parallèle entre un fumeur de cannabis et un meurtrier? Il va aussi retirer le permis à tous les cocaïnomanes qui sont parlementaires, sénateurs ou au gouvernement, nous dit Nono. Je suis pas sûr qu'il y ait de test prévu dans ce sens-là encore. On a aussi ces inquiétudes qui nous disent, Michael nous dit, les amendes c'est comme le reste, beaucoup de menaces mais aucune peine dans la réalité, puisqu'on rappelait aussi le faible taux de recouvrement des amendes forfaitaires pour la consommation de stupéfiants. Vous continuez à réagir au 3216 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Et dans un instant, Arnaud Demange débarque pour nous faire rire à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Donald Trump menace une nouvelle fois de raser l'Iran. Des frappes inquiétantes ce week-end, notamment aux abords de centrales nucléaires aux Émirats Arabes Unis. Que faut-il prendre au sérieux et quelle suite pour les événements? Réponse donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Notez aussi qu'à 8h50, comme chaque jour pour notre plus grand bonheur, Nicolas Canteloup sera sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche. Et bonjour.
Et salut Arnaud, 8h14 sur RMC. Arnaud de Manche est avec nous.
Bonjour tout le monde, bonjour Apolline et bonjour à notre dame de la météo, Géraldine Demory. Géraldine, je tiens à vous dire, le temps de ce week-end m'a énormément déçu. Merci, bravo.
Voilà. Je vais me rattraper le week-end prochain.
En avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, enfile un pull. Hein. Et en juin, raclette, c'est ça que vous avez prévu. Il faut vous ressaisir, Géraldine.
Oui, ça c'est sûr.
Vous êtes crevé, c'est la fin de saison. Mais ce qu'on voit dehors, là, c'est pas possible. On caille en ce moment, c'est fou. Moi, j'ai passé mon week-end à faire des courses de Noël, décorer mon sapin, une petite fondue avec Mathieu. On a regardé l'Eurovision sous un plaid à paillettes avec un thé bien chaud. Et c'est la Bulgarie qui a gagné l'Eurovision. Nous, la France, on est 11e. Et ça a dû faire tellement plaisir à Charles Aloncle. Vous savez, le rapporteur de la commission d'enquête sur le service public, parce que c'est le pays qui gagne, qui doit organiser la cérémonie l'année d'après. Et ça, ça coûte très cher en argent public. Ouais. Je suis même sûr que c'est Aloncle qui a fait passer le casting.
C'est sûr.
Non, ça non. Ça, on n'en voit pas. Vous rigolez, Angèle et Justice, on va gagner. Vous voulez pas qu'on envoie Céline Dion tant que vous y êtes? Non, il me faut de la daube. Je veux un truc du niveau Papa Pingouin. Suivant.
Il était où le gentil Tiyuki?
Gotenner. Gotenner, ça va pas non plus, c'est trop kitsch, ils sont foutus d'aimer à l'Eurovision. Et on sera obligé de dépenser du précieux argent public l'année d'après, alors qu'il faut protéger le précieux argent public. Il ne doit pas financer la gay pride de la chanson. Des barbus à paillettes, avec une coupe au bol. Tue les moustachus, tue leur concours. Il faut qu'ils soient morts, comme Marie-Myriam. Mon maître Vincent Bolloré. Non, elle est pas morte. Mon maître Vincent Bolloré sera fier de moi. L'an prochain, Patrick Bruel, il faudra envoyer. Perdre, nous devons. Il ne faut pas gagner. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Non, ça, il ne faut pas. Il ne faut pas. Sauvons le précieux argent public.
Le Charles de Gaulle, Arnaud, est donc tout près d'Ormuz, prêt à intervenir dans le cadre d'une, je cite, mission neutre.
Oui, une mission neutre. Oui. On change de Charles. C'est ce qu'a déclaré Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées. Une mission neutre, nom de code de la mission, alerte beige. Opération ton sur ton, déploiement décaféiné. C'est là que tu te rends compte qu'Alice Ruffo, c'est la fille du pédopsychiatre Marcel Ruffo. Hein. Elle veut une guerre Montessori. Soldats, vous êtes des explorateurs autonomes du tapis sensoriel. Et c'est pour ça qu'on va pratiquer une activité pacifique de résolution de conflits.
Oui.
Alors, un coin calme a été installé dans le golfe Persique.
Oui.
Les États-Unis ont exprimé la couleur de leur émotion.
Oui.
Orange.
Ah.
Et avec des bombardements stratégiques. Et l'Iran a parlé de représailles, missiles balistiques, mort à l'impérialisme. On verbalise ses besoins, mais on évite d'enflammer le Moyen-Orient avant la sieste. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, mission neutre, quand même, c'est pas un super titre pour un film de guerre. Vous imaginez Rambo 12, mission neutre.
Monsieur le Président, je comprends pas ma mission.
C'est simple, John, c'est une opération neutre. C'est la guerre, et en même temps, c'est pas la guerre.
Non, c'est pas ma guerre.
Si, c'est ta guerre, mais en même temps, c'est pas ta guerre non plus. C'est ta guerre et ta non-guerre, c'est neutre, quoi.
Bon alors, je ferai pas une non-guerre comme personne n'en a jamais pas connu.
Si, tu fais la guerre. Juste, elle est neutre.
Non, mais monsieur Macron, à la guerre, on peut tuer 1000 fois une personne, mais on peut pas tuer une fois 1000... Si, on peut tuer une fois une personne.
Bon courage.
Mais on peut pas tuer 1000 fois 1000... Si, en fait, une personne... Non, oh putain, c'est compliqué.
Brigitte, il comprend rien, il est nul.
Bah t'as qu'à demander à ta poufias iranienne de lui expliquer.
Bon alors ça c'est petit. Vraiment, c'est petit. Je t'ai dit en plus c'est platonique. Alors, c'est platonique.
Les plaintes contre Patrick
sans transition.
Bruel, accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, seront donc désormais regroupées au parquet de Nanterre.
Oui, alors il y en a encore eu de nouvelles ce week-end, dont celle de l'animatrice Flavie Flamand. Et on est en direct de Nanterre, où la totalité des plaintes est déposée. Vas-y Steph, recule, vas-y balance. Ça en fait des plaintes, hein. Ça en fait beaucoup. Mmh. Alors dans le classement préféré des Français, bah moi j'ai déjà barré Gérard Depardieu, l'abbé Pierre, maintenant Patrick Bruel. On va bientôt apprendre que Mimi Mathy mord les mollets des gens. Hein. C'est horrible ce classement. C'est vrai que c'est toujours compliqué ce genre d'affaire parce que une femme qui accuse, on peut dire bon, c'est un malentendu. Une deuxième. Bah, c'est un deuxième malentendu. Une troisième, bah, c'est la loi des séries, c'est un troisième malentendu. Il a 67 ans, allez, 45 ans de carrière, pourquoi pas. Mais 30 ou 40 malentendus, c'est plus dur à plaider quand même. Comment il va faire? Monsieur le juge, c'était platonique. Non, c'est mon truc à moi, ça. C'est à moi, ça. Aïe. Bon, allez, à demain.
Ils sont combien, ça?
Ils sont combien, ouais.
Combien ils sont dans ta tête, Arnaud?
Un beaucoup, dont un président. Allez, à demain.
Il est 8h20 sur RMC et RMC Story. On part au 32-16. Il y a Raph qui nous appelle de Mâcon. Bonjour, Raph.
Hey, salut tout le monde.
Comment ça va? Vous vouliez réagir, Raph? Vous êtes conducteur de convoi et vous vouliez réagir à cette proposition de loi qui va être débattue aujourd'hui sur la sécurité du quotidien. L'idée, c'est que si vous êtes pris en train de fumer du cannabis, on pourra vous retirer votre permis, alors même que vous pourriez être pris sur la voie publique sans qu'il y ait un rapport avec le permis ou avec la voiture. Vous en pensez quoi, Raph?
Moi, je trouve ça complètement nul. Pourtant, j'aime vraiment le côté régalien et puis quand on respecte tout. Mais il y a un moment, là, les fumeurs de cannabis, si on leur retire le permis, ce qu'ils vont faire, ils vont rouler sans permis. Donc, et puis à la fin, ce qui va se passer, c'est que nos assurances, quand il y aura des accidents, c'est encore mieux que les gentils qu'elles vont payer, quoi. Ce qu'il faut, c'est simple. En fait, il faudrait simplement une arrestation, un mois de suspension de la voiture. On la réquisitionne, on la gare, tac. Ouais. Deuxième fois qu'on se prend 2 mois. Et puis comme ça, que ce soit un paysan en C15 ou un riche en Lamborghini, tout le monde est impacté pareil.
Tout le monde est impacté pareil, on y va progressivement. Raph, en fait, le problème que vous dénoncez et que nombreux dénoncent depuis ce matin, c'est pas tant la question de l'efficacité ou non, c'est la question de c'est pas... on peut tromper 1000 fois une personne.
Une personne.
J'ai du mal, là.
C'est lundi. Donc, c'est lundi.
Raph, je recommence. Ok, je recommence. Donc, ce qu'on reproche, c'est même pas la question de est-ce qu'il faut le faire, pas le faire. C'est en fait, de toute façon, ça ne servira à rien, ça ne sera pas appliqué. C'est la question de l'application de la loi. On a l'impression que c'est pareil. Hein. On va encore augmenter les amendes, sauf qu'on nous le dit, il y a que 20% des amendes qui déjà aujourd'hui sont recouvrées. Donc en fait, c'est la question de l'efficacité de la loi. Vous, Raph, qui êtes sur la route toute la journée, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous dites qu'il faudrait absolument les faire?
Ouais, faut vraiment trouver un vrai problème pour le téléphone, une solution. Ouais, parce que c'est catastrophique, je vois en permanence, en plus en camion on est en hauteur, donc on voit les gens avec le téléphone sur les genoux ou sur la console centrale, on voit tout le temps les gens qui la tête un peu baissée dans les rétroviseurs, on voit, non, c'est catastrophique. Ouais.
Donc, allez, c'est pas dans le projet de loi, mais en fait, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça la question. Merci Raph et merci de votre bienveillance à l'endroit de parfois un petit peu comme Arnaud. Il y a trop de monde dans ma tête. Il y a déjà un peu Gilles Kepel, il y a encore un peu Arnaud Demange. Et entre les deux, ça se mélange. Merci Raph et bonne journée à vous. Il est 8h22, je le disais dans un instant, c'est le face-à-face et mon invité, c'est en effet Gilles Kepel, le spécialiste du Moyen-Orient. Ça a frappé à nouveau ce week-end et notamment aux abords d'une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie et du nucléaire se dit très préoccupé. On y revient dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On a encore besoin de vos lumières parce qu'on n'y comprend plus rien. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est de cette guerre qui est officiellement une non-guerre. On nous parle d'un cessez-le-feu, mais on voit que ça a continué à frapper et à frapper dangereusement ce week-end, notamment aux abords d'une centrale nucléaire sur les Émirats Arabes Unis. Vous diriez quoi, Gilles Kepel, pour commenter ce qu'il se passe aujourd'hui, pour définir ce qu'il se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un état de guerre là-bas? Qui sont les protagonistes? À quel endroit est-ce que vous mettez le curseur de la définition entre guerre, paix, cessez-le-feu?
Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que le monde a complètement changé. On n'est plus dans ce que Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance américaine. Vous voyez, autrefois, après la chute du mur de Berlin, il n'y a plus d'empire soviétique. Le président des États-Unis a la capacité de soutenir ses alliés, de liquider ses ennemis, de mener des opérations étrangères et ça. Et il n'y a pas véritablement de force de résistance. Aujourd'hui, et c'est ce qui a été très visible lors du sommet sino-américain à Pékin la semaine dernière, Donald Trump arrive, il n'a plus véritablement la capacité de transformer ses décisions en actions sur le terrain, et il est allé demander à Xi Jinping de lui donner un coup de main, notamment pour ouvrir le détroit d'Hormuz, et l'autre lui a dit « Attendons un peu, laissons un peu saigner Trump, et on verra quand je retournerai, quand on se reverra. »
Donc il en revient pour vous, Bredouille ?
Assez largement, oui. Et c'est un problème pour lui aussi à l'intérieur, puisque sa cote de popularité s'effondre, y compris dans les milieux conservateurs qui votaient pour lui, non seulement chez les indépendants, les démocrates. La perspective qu'il remporte les élections de midterms à la Chambre des représentants est aujourd'hui très très faible. Et aujourd'hui, la question, c'est s'il va aussi perdre le Sénat, c'est-à-dire que ces deux dernières années sera une présidence encore plus affaiblie. Et dans ce contexte-là, il n'a pas été capable, d'une certaine manière, de transformer l'essai en Iran. On était au début tous convaincus, moi compris, que la décapitation du régime, la mort de Khamenei, etc., allait amener une transformation très rapide. Mais en réalité, les gardiens de la révolution avaient préparé le terrain
Avec ce système de pour chaque personne éliminée, une autre prenait la place, comme si tout cela avait été organisé de manière mécanique, préparée, anticipée.
Voilà. Et donc là, d'une certaine manière, le système américain se trouve en plein désarroi, si vous voulez. Ajouter à cela les rodomontades permanentes, etc. Le contraste était très frappant.
Les rodomontades, on va y revenir, avec à nouveau, hier soir, des menaces de Donald Trump, mais on ne sait plus s'il faut les prendre ou non au sérieux. Mais vous avez dit, le monde a changé. On va revenir aussi sur la question de la façon dont le monde s'organise, trouve de nouvelles routes, y compris pour le pétrole et le reste, face à cette fermeture du détroit d'Hormuz. Mais je percevais derrière votre expression, le monde a changé, une sorte de redistribution des cartes des puissances.
Oui, justement. Alors, c'est quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas la seule à vous poser des débats. C'est un vrai questionnement. On aura demain soir avec Bruno Tertrais, d'ailleurs, un débat là-dessus sur la guerre. Qu'est-ce que c'est
exactement? Ça devient même un sujet. Oui, oui. En effet, demain soir, vous serez au Théâtre Marigny avec Bruno Tertrais, qui est un autre de mes invités réguliers, pour essayer de comprendre précisément ce qui se joue, pour débattre de ce qu'est la guerre aujourd'hui. C'est quoi la guerre aujourd'hui? C'est aussi la question que je vous pose.
Voilà. Ça n'est plus ce que c'était autrefois. Et ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir. Avec, par exemple, la prolifération des drones. C'est-à-dire que les États-Unis ont lancé cette guerre avec des moyens massifs, mais en réalité, et ça s'est vu notamment dans le Golfe, et ça c'est l'un des enjeux les plus graves aujourd'hui, les pays du Golfe, les pétromonarchies comme on dit, ont payé des fortunes pour que les Américains mettent des intercepteurs, des missiles de croisière, des missiles d'interbalistiques, etc. Et le résultat, c'est que ceux-ci ont été impuissants face aux flottes de drones envoyées par les Iraniens.
On a l'impression qu'on a basculé déjà au moment de la guerre en Ukraine, c'était très frappant, d'un monde où on nous parlait de la bombe atomique et ceux qui détenaient la bombe atomique, en gros, étaient à l'abri de tout, à une période où on s'est rendu compte que la guerre, c'était encore des tranchées, c'était encore des êtres humains que l'on envoie au front et qui meurent au front. Et puis, on est passé là, avec la guerre en Iran, à la question des drones. Au fond, on a l'impression que nous, on s'était préparé à une guerre justement sur le plan atomique, j'allais dire, atomique ou missile. Et on se retrouve, au fond, avec face à nous des drones qui sont incroyablement efficaces, plus efficaces peut-être que tous les sous qu'on avait mis dans le développement d'armes balistiques beaucoup plus fortes.
Et qui valent le prix d'un vélo. Mais ceci n'est pas incompatible avec cela, puisque justement, c'est l'Ukraine qui va... être capable de construire des machines anti-drones, puisque les Russes utilisent des drones iraniens, justement, pour taper sur les Ukrainiens, et notamment sur les civils, et qui ensuite vont vendre, les Ukrainiens vont venir vendre ça aux Saoudiens et autres, qui se trouvent confrontés à ce que, et ça c'est quelque chose qu'on n'est pas encore sûr, mais le cessez-le-feu du 8 avril, qui intervient alors qu'il n'y a pas eu véritablement d'avancée sur le terrain pour les Américains et leurs alliés, c'est aussi parce que les armements hors de prix sont épuisés. Et il n'y a plus d'intercepteurs. Et donc, on 10 pouces, vous avez mis tout à l'heure, on cessait la guerre, c'est un cessez-le-feu dans lequel on se tape dessus, parce que les moyens conventionnels ne sont pas là. Mais drones et atomiques, ça n'est pas forcément incompatible, justement.
C'est comme s'il y avait deux niveaux désormais de guerre.
Oui, mais que vient-il de se passer à Abu Dhabi ? La centrale nucléaire civile qui a été construite par les Coréens, qui est entrée
à Baraka, le centre nucléaire de Baraka, ce sont les Émirats Arabes Unis, effectivement, qui dénoncent, donc, je cite, une frappe de drone qui a provoqué un incendie aux abords de la centrale nucléaire de Baraka dans l'ouest du pays. Et d'ailleurs, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, exprime sa profonde préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Alors, disons que là, il s'agit effectivement d'un drone qui a mis le feu à un bâtiment annexe, un générateur électrique, je crois. Bon, ça ne représente pas le danger de l'apocalypse nucléaire, de l'explosion de la centrale. Mais c'est un signe que l'on sait. Bien sûr, personne ne revendique l'avoir envoyé. Je ne sais pas s'il est venu de l'Iran ou d'un mandataire quelconque de la région, peut-être d'un groupe chiite pro-iranien du sud de l'Irak. C'est pas compliqué. Mais c'est un signe très fort. C'est-à-dire que Quand on dit à l'Iran, il faut que vous rendiez votre stock nucléaire, Trump a dit qu'il allait le prendre et l'emmener aux États-Unis. Il est un peu en dehors de la réalité, je crois, en disant ça. Là, l'Iran réplique, tiens, à propos du nucléaire, il y a un enjeu de l'autre côté. Et il faut bien voir que ce sont les Émirats qui ont été visés, puisque ce qui se passe aujourd'hui et qui est très important, c'est que le front du Golfe, qui était relativement uni, de ce qu'on appelle les pays du Conseil de coopération du Golfe, pays arabes, aujourd'hui, face à l'impuissance américaine, sont en train de chercher d'autres solutions, des solutions qui s'ajoutent à celles-ci. Les Émirats notamment, qui sont les seuls avec le Bahreïn à avoir signé les accords d'Abraham, c'est-à-dire des accords avec Israël, se sont de plus en plus tournés vers les Israéliens pour apporter leur protection. Et ont fuité dans la presse des informations la semaine dernière que M. Netanyahou s'était rendu aux Émirats en secret au mois de mars, ce qui a fait un grand scandale. Pourquoi lui a-t-il fuité ça? Parce que il est en campagne électorale, il a appelé des élections anticipées en Israël en août, et donc il a besoin de montrer à son électorat qu'il n'est pas tout seul et qu'il a un certain nombre de pays arabes avec lui. Évidemment, aux Émirats, on n'a pas particulièrement apprécié parce que...
Ils n'ont pas tellement intérêt à ce que ça se sache.
Évidemment, les Iraniens en ont immédiatement profité pour dire, vous voyez, c'est une alliance inacceptable, etc. Et donc, on a le dôme de fer, c'est-à-dire le système de protection israélien qui a été implanté aux Émirats, parce que les Émirats n'ont plus confiance dans le seul parapluie américain.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de redistribution des cartes? Vous évoquiez les accords d'Abraham, ces accords d'Abraham qui étaient en train de se mettre en place avant le 7 octobre, qui a évidemment balayé tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de se reconstituer?
Alors, pas partout, puisque quand les Émirats et le Bahreïn sont plutôt de ce côté-là, à l'encontre de cela, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui pourtant ne s'entendaient pas autrefois, se sont eux plutôt installés dans une politique d'accommodement avec l'Iran. Et précisément, se sont rapprochés de la Chine, qui a montré lors du sommet de Pékin qu'ils avaient la capacité, eux, d'agir sur l'Iran.
Puisque vous évoquez l'Arabie Saoudite dit cette nuit avoir intercepté 3 drones en provenance d'Irak et dit même qu'elle pourrait réagir. Le ministre de la Défense se réserve le droit de riposter au moment et au lieu approprié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là?
Oui, de toute façon, ils ne peuvent pas dire autre chose. Il faut qu'ils manifestent à leur population qu'ils sont en capacité de se défendre.
Mais pourquoi l'Irak?
Non, parce que en Irak, vous avez des milices chiites qui ont échappé assez largement au contrôle du gouvernement, qui sont en réalité manipulés par les Iraniens. Donc, quand les Iraniens veulent attaquer une cible sans qu'on leur impute la responsabilité...
Ils le font de manière indirecte,
au fond. Voilà, on dit aux Hezbollah irakiens ou à les milices dites de la mobilisation populaire, al-Hashd al-Sha'abi, de tirer, et comme ça, on peut être dans ce qu'on appelle le déni. On dit, c'est pas nous.
Mais quel est l'intérêt? Puisque vous, si je suis bien à ce que vous êtes en train de nous expliquer, on a justement l'Arabie Saoudite et le Qatar qui, au fond, sont en train de se dire, bon, l'Iran, de toute façon, on n'en viendra pas à bout, il va falloir vivre avec. Si l'on renvoie ce type de drone, alors certes, en disant c'est l'Irak qui l'a fait, pas exactement nous, est-ce que ça n'est pas une manière, au contraire, de se les remettre à dos de la part de l'Iran?
Oui, ou bien de maintenir la pression et de faire en sorte que, de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution que de trouver l'accommodement. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui n'a pas bougé. Et les Chinois, là-dessus, ont dit on ne va pas aider, c'est le détroit d'Ormuz.
C'est-à-dire au moment où l'on se parle, il est totalement fermé.
Voilà, alors, il est plus ou moins totalement fermé, puisque à la suite de la rencontre Trump-Xi, Jinping à Pékin, donc les Iraniens ont dit, bon, on laisse passer les bateaux amis. C'est-à-dire que le principal problème qui était qu'il n'y avait plus de gaz naturel liquéfié ni de pétrole qui arrivait en Asie, tout ça est en train d'être résolu, puisque les Iraniens les laissent passer à leurs conditions, et on voit mal le contre-blocus américain derrière empêcher le passage de bateaux qui vont soulager la situation en Asie, puisque sinon c'est Trump qui emporterait la responsabilité. Donc vous voyez qu'il y a un jeu qui est extrêmement subtil là, et qui s'inscrit surtout dans la montée en puissance chinoise.
La montée en puissance chinoise met toujours cette menace. Encore une fois, vous le disiez, il y a une forme de gesticulation de la part de Donald Trump. On ne sait plus s'il faut croire ou non ces menaces. Donald Trump qui, hier soir, a adressé une nouvelle mise en garde à Téhéran. Pour l'Iran, le temps presse, il ferait mieux de se bouger vite, vite écrit en lettres capitales. Sinon, il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté, là encore en lettres capitales, avec plusieurs points d'exclamation derrière. Et on apprend que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est aussi entretenu donc avec Donald Trump. Est-ce qu'il faut imaginer une reprise éventuelle des frappes à proprement parler pour sortir de ce qu'on était en train de définir ensemble comme une sorte de faux cessez-le-feu?
Ben, c'est très difficile comme pari pour les Américains puisqu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour frapper et le résultat n'a pas été probant. Alors, si de frappe il doit y avoir, elles doivent trouver ce qui va permettre de d'amener l'Iran à la négociation.
Qu'est-ce qui reste comme
pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisque la disproportion entre les armements est flagrante et le fait qu'on n'ait pas trouvé du côté occidental, du côté américain en tout cas ou israélien, une réplique efficace aux flottes de drones pose un véritable problème. Vous avez par exemple, il y a aussi un autre drame qui se déroule, on en parle malheureusement trop peu, qui est la catastrophe qui est à la frontière israélo-libanaise. C'est-à-dire que vous avez donc une zone de sécurité qui a été construite par Israël dans le sud, des bombardements quotidiens qui touchent des cadres du Hezbollah, mais aussi une population qui est obligée d'être déplacée, de fuir, et en même temps, le Hezbollah qui a trouvé désormais des drones filaire à fibre optique qui valent 350 €.
Oui, vous disiez, c'est le
moins cher
vélo,
qu'un
quoi.
Vélo. Oui, c'est ça, un vélo en solde. Et qui sont indiscernables et qui tuent des soldats israéliens qui sont là, des hélicoptères, etc. Et qui menacent aussi le nord d'Israël.
Et là encore, il y a un décalage effectivement entre les mots et les faits, puisque officiellement une trêve entre Israël et le Liban a été reconduite pour 45 jours, sauf que, vous le disiez, des frappes israéliennes encore dimanche ont tué 7 personnes, dont un des chefs du djihad islamique palestinien visiblement présent sur le sol libanais. Le Hezbollah dit avoir tiré 200 projectiles, hein, c'est ce que vous citiez à l'instant, sur Israël ces tout derniers jours, sur Israël et sur les troupes israéliennes. Au fond, ça ne s'arrête pas.
Non, et ça ne s'arrête pas précisément parce que, si vous voulez, le logiciel des États-Unis est encore un logiciel qui date.
Mais
le système Trump ne s'est pas adapté aux défis d'aujourd'hui. Et c'est ça toute la difficulté.
Évidemment, la question du logiciel Trump, on va revenir aussi sur ce qu'il propose éventuellement comme une négociation, mais enfin, visiblement impossible d'un côté ou de l'autre d'accepter ce que propose l'adversaire. Mais une question quand même sur ces fameux 200 projectiles tirés ces dernières heures sur Israël. On a du mal à comprendre que dans la situation actuelle, le Hezbollah ait pu reconstituer ou constituer, ça veut dire qu'il avait des stocks considérables, malgré des années où Israël quand même régulièrement tape, oui. Malgré l'affaire des beepers, comment ça passe, pardon, c'est presque, comment ça arrive?
Alors ça, c'est la grande question, c'est-à-dire qu'on n'a pas de la certitude, ce qu'on sait.
J'imagine que, alors vous dites c'est le prix d'un vélo, mais enfin j'imagine qu'il faut quand même le transporter ce drone, il n'est pas fabriqué sur place dans le sud du Liban.
Alors cela, semble-t-il, c'est faisable, enfin sinon dans le sud du moins à Beyrouth. Vous avez quand même tout le sud de Beyrouth et une grande partie du sud du pays qui est chiite. Et parmi lesquels, dont tout le monde n'est pas pro-Hezbollah, mais le Hezbollah dispose quand même de ressources, notamment parce que c'est un conduit qui amène les financements iraniens à des populations qui sont souvent assez déshéritées et qui ont ça comme moyen de subsistance. Mais ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'on n'imaginait absolument pas qu'après, vous avez évoqué l'affaire des beepers en septembre 2024, où il faut rappeler donc que les Israéliens avaient piégé des beepers ou des pagers du Hezbollah, et quand ils les ont déclenchés, presque tout l'establishment, enfin au niveau des officiers et des sous-officiers du Hezbollah, ont été éliminés ou incapacités. Ensuite, le cheikh Nasrallah a été tué, etc. Mais comment les gardiens de la révolution ont-ils réussi à reconstituer sans qu'on le sache, le Hezbollah et à en faire de nouveau une menace terrible pour Israël. Ça, c'est une vraie question que, justement, les services de renseignements occidentaux et israéliens eux-mêmes, directement concernés, n'ont pas été capables d'anticiper.
Ils n'ont pas changé le logiciel.
C'est passé par
le port. Ils n'ont pas changé le logiciel. Ils n'ont pas vu ce monde aussi évoluer. Et ils continuent à faire des idées de négociation qui sont quasiment impossibles. Et c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer comment ça va se terminer, cette histoire. Washington qui exige notamment que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium, les fameux 450 kilos d'uranium enrichi, sur le sol américain. On imagine bien que ça, c'est impossible.
Non, ça, c'est quelque chose qui est l'aboutissement d'une capitulation. Mais ça ne peut pas être le début d'une négociation. Mais là, on est obligé de se dire que l'équipe américaine est bonne pour les deals immobiliers. Mais c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. Et ça pose un véritable problème. Comment est-ce que les démocraties occidentales en arrivent à confier leur destin à des gens qui ne sont pas efficients pour le faire, qui ne savent pas ce que c'est? Face à cela, vous avez des négociateurs iraniens qui sont du pays qui a inventé le jeu d'échecs et qui sont parfaitement formés, si vous voulez, et peuvent transformer leur faiblesse en force. Et c'est ça qui est très frappant, c'est cette espèce de Gulliver empêtré, si vous voulez, des
Américains,
États-Unis.
Voilà. Américains face, effectivement, aux Perses.
C'est une question fondamentale, et c'est bien pourquoi, si je puis me permettre, faire un peu de publicité. On va essayer d'en débattre,
c'est
justement.
C'est votre seconde promo, mais allons-y. Assumez-le. Voilà. Effectivement, vous débattez sur la guerre demain soir avec Bruno Tertrais. Ce sera au théâtre Marigny. Gilles Kepel, merci d'avoir été avec moi ce matin. Professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Et donc, demain soir, sur la scène du théâtre Marigny. Désormais, la guerre, effectivement, on en débat, y compris dans les théâtres. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gilles Kepel était mon invité dans le face-à-face ce matin. Il est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Rebonjour.
Gilles Kepel, hier, Donald Trump a de nouveau menacé de détruire l'Iran, donc.
Oui, écoutez, pour être tout à fait précis, le président américain Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social, je rappelle au passage qu'en anglais, le verbe écrire est un verbe irrégulier, to write, write, written. Je me reprends moi-même, oui, c'est voilà. Vous dire que je suis de très haut niveau. Il a donc écrit qu'il ne reste sera plus rien de l'Iran, cité errant, n'accepte pas un accord, plus rien, c'est-à-dire nothing, ou si vous préférez, en arabe littéraire, nada zobi, wahalo. Même si, pour ma part, je préfère pratiquer au quotidien l'arabe bédaoui que l'on parle en Égypte, notamment dans le Sinaï et sur les côtes de la mer Rouge, au sud de la Cisjordanie, en Syrie également, en Palestine, mais aussi dans les quartiers nord de Monaco.
thank you Gilles Kepel.
You are welcome, Apolline. Mais il va falloir quand même que vous travaillez, c'est mon conseil du jour, un petit peu votre accent. Repeat after me. Brian is in the kitchen.
Brian is in the kitchen.
Très bien, on va aller plus loin. The drone shed is in the kitchen.
Ça risque malheureusement d'être une phrase utile à l'avenir. Merci beaucoup Gilles Kepel. Tout de suite, on retrouve Pascal Praud pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Eh oui, bonjour, bonjour à tout cet entourage journalistique de qualité. Gilles Kepel est là ce soir, demain, au Théâtre Marigny. Oui, la promo s'il ne vient pas. Apolline, ça y est, vous êtes donc à Apolline, rentrée de la Sarthe, capitale Le Mans. Et en même temps, c'est vrai qu'il n'y a plus de raison de continuer à s'isoler puisque l'épidémie d'antivirus est terminée. Ça a duré quoi, 24 heures? C'est comme les 24 heures du monde, voilà. Du Mans. C'était donc le Mantavirus. Voilà. On démarre la semaine par du LOL. Voilà. Mais le Mans est un très bon choix pour passer tranquillement le pont de l'Ascension, cette belle fête catholique. Ben oui, mais pardon, les rillettes de porc, ça éloigne les musulmans. Voilà, oui. Allez, oui, c'est moins drôle que Gilles Kepel.
Allez.
Sa sainteté, le pape Léon XIV, nous fera l'honneur de venir en France en septembre prochain. Et pour mai 2027, nous espérons également l'arrivée du Messie, Jordan Bardella.
Ah oui,
ce week-end avait lieu l'Eurovision, ce concours qui sacre chaque printemps un chanteur ou une chanteuse. Il y a des années d'ailleurs où on a du mal à savoir d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Bref, un concours de wokistes dégénérés, transgenres, insoumis, métrosexuels. Pardon, mais c'est pas le sacre du printemps, c'est le massacre des tympans.
Oh,
mais d'ailleurs, je crois qu'un spécialiste, Nikos Aliagas, souhaitait réagir, monsieur Aliagas.
Ouais, salut les loups. Et oui, l'Eurovision, ce monument de la chanson européenne qui a révélé tant de talents comme tous ceux et celles qui ont remporté ce grand concours de chant, qui sont restés au firmament mondial de la chanson pendant 2-3 jours max.
Oui, okay.
Voilà. Donc je le dis, c'est mon conseil. Ceux qui rêvent de devenir chanteur, inscrivez-vous plutôt à la Star Academy. Ça, c'est une valeur sûre. Là, au moins, si vous gagnez, vous ferez une vraie carrière d'au moins 3, voire peut-être 4 mois. Comme Magali. Oui, Magali, la grande Magali. Souvenez-vous de Magali. Mmh. Ceux qui se souviennent de Magali t'embrassent, oui. Vous embrassent. Bon, apparemment, personne ne se souvient, mais on t'aime quand même, Magali. Salut Magali, Magali.
Merci Nikos. Stéphane Bern, bonjour. Oh, vous étiez à nouveau au commentaire justement de l'Eurovision cette année. Plus politique que jamais. Hein.
Mais oui, mais politique. Mais moi, je ne suis pas fait pour ça, pour parler politique. Moi, chaque année, si je dis oui pour aller commenter l'Eurovision, c'est juste pour me moquer de la prestation d'un boys band lituanien déguisé en ragondin ou de danseurs moldaves en slip fluo qui font des saltos arrière pour éviter des lasers multicolores. Non. Mais au lieu de ça, cette année, je me suis retrouvé à devoir parler boycott d'Israël, d'Ukraine, de Russie, de Pays-Baltes, de Palestine, de géopolitique internationale. Mais si c'est comme ça, hein, vous pouvez m'oublier pour l'année prochaine. Vous envoyez Gilles Kepel, il est fait pour ça.
Voilà,
oui, écoutez, je veux bien effectivement commenter l'Eurovision.
Oui, c'est bien.
Bulgarie, 12 points. Bulgaria, 12 points. La Bulgarie qui, conformément à ses accords passés avec les Émirats Arabes Unis et avec l'appui de la Russie septentrionale a pour contourner l'Ukraine ouvert un oléoduc au sud Liban. Belgique, Belgium 4 points. La Belgique qui, je le rappelle, ne fait plus partie de l'OPEP depuis la scission entre le Liechtenstein et le Luxembourg entérinée lors des accords d'Islamabad.
Oui, merci beaucoup Gilles Kepel, très bonne idée hein, donc pour la présentation de l'Eurovision. Patrick Bruel est accusé par une trentaine de femmes dont Flavie Flamand de viol ou d'agression sexuelle. Nadine Morano voulait-elle aussi témoigner?
Non mais je suis désolée, mais moi je peux pas y croire. C'est pas possible, c'est des rumeurs, c'est de la couille en sachet.
Non, enfin Nadine Morano, bon, enfin elles ont l'air sincères quand même ces femmes.
Mais c'est incompréhensible. Mais t'as vu la tronche de beau gosse de mon Patrick? Autant Gérard Miller, je dis oui. Bon. Hein, le gars, mais oui, il a une dégaine de prof d'économie en banlieue de La Roche-sur-Yon. C'est vrai. Mais non, mais il te fait pas durcir les tétés, pardon. Hein. Mais je comprends que le gars il misait tout sur l'hypnose, il avait que ça. Mais pas mon Patoche, mon Patrick à moi. C'est pas possible. Il claque des doigts, il y en a 15 qui tombent d'un arbre et 30 qui sortent d'un buisson pour lui faire un massage all inclusive avec finition norvégienne et chatouillé du Kentucky. Oui, du Kentucky. Il n'y a pas que Gilles Kepel qui parle géopolitique.
Ah oui, c'est vrai, ça, vous avez l'air très remonté quand même, dis-moi.
Ben ouais, mais moi, je suis fan de Patrick depuis toujours. C'est un peu mon Sarko musical, tu vois. Je kiffe autant que si mon Sarko avait sorti un double album. Je vais te raconter une histoire.
Ah oui.
Une fois, Patrick, il m'a invité en sa loge, en backstage. J'avais prévu le coup, tu vois, je m'étais apprêté. J'avais mis mon pantalon en sky noir, mon rouge à lèvres écarlate cramoisi, deux coups de pchit fébraise lavande bergamote sous chaque aisselle. J'avais déboutonné ma chemise jusqu'au nombril en mode décolleté XXL. Bref, comme d'hab, tout dans la classe, tu vois. Et quand je lui ai mis mes nibards sous le nez, lui disant « Mon loulou, je te kiffe, viens dans ma permanence en Meurthe et Moselle, je te fais la totale. » Eh ben, tu sais quoi? Il les a même pas touchés, mes nibards. Il s'est même caché les yeux. C'est incompréhensible. Du coup, je me suis rabattu sur Marshall.
Ah oui. Marshall.
Je pensais qu'il allait me dire « Non, je suis en couple avec Truchot. » Mais pas du tout. C'est pas sa carte joker qu'il a sorti. Oh le salaud.
Oh non. Oh, mais justement, il est avec nous.
Marshall, merci
Gilles Kepel d'avoir joué le jeu. Merci Nicolas. Bon, bah, Alain, je n'ai plus qu'à vous demander quel est le programme.
Eh bien, justement, on continuera l'affaire Bruel, savoir s'il peut continuer de se produire ou pas sur scène. On évoquera les professionnels du cinéma qui dénoncent l'emprise grandissante, c'est ce qu'ils disent, de l'extrême droite et de Vincent Bolloré sur la production des films. On reviendra aussi sur les recruteurs qui sont très sévères avec les CV bourrés de fautes d'orthographe. Et puis, nous recevrons la magistrate Béatrice Brugère. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? C'est la question qu'elle pose. Et nous, on essaiera d'avoir des réponses. Allez, à tout de suite.